Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en particulier aux personnes qu'on voit très rarement. Je pense à David Chenu et Aurélie qui est quelque part là avec leurs enfants. Et puis aussi à Joël qui est aussi accompagné de Michael et qui sont là et qui nous viennent du Canada, si je ne me trompe pas. Nous continuons en effet cet été notre série de prédications sur les paraboles de Jésus et plus particulièrement ces paraboles qui nous parlent du royaume de Dieu. Après la parabole concernant la mauvaise herbe, après celle du semeur que nous avons vu la semaine dernière, eh bien, nous nous penchons ce matin sur deux courtes paraboles que nous venons de lire. Deux courtes paraboles où Jésus nous enseigne encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Réfléchissez à ce qui a constitué pour vous la plus grosse dépense dans votre vie. Est-ce pour une maison, un appartement? Est-ce pour une voiture? Ou l'organisation d'un mariage? Peut-être les études? Ou encore un voyage? Quelle a été votre plus grosse dépense dans votre vie? Et de manière générale, eh bien, nous dépensons beaucoup pour ce qui est important pour nous. Et s'il faut payer un peu plus cher pour partir, par exemple, en vacances, eh bien, nous sommes prêts à dépenser moins ailleurs, à faire des économies pour nous offrir cette possibilité. C'est comme ça que nous réagissons quand nous voulons obtenir ce qui a du prix à nos yeux. Et si cela est vrai pour notre vie terrestre, pour nos biens matériels, qu'en est-il du royaume que Jésus est venu annoncer? Dans la liste des choses qui importent pour nous, où se situe le royaume de Dieu? En première place? En deuxième place? Ou en dernière place? Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ou la dernière fois plutôt, Jésus utilise plusieurs paraboles pour nous expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Pour les uns, ce langage va rester totalement énigmatique. Ils ne vont pas comprendre de quoi parle Jésus. Et puis pour les autres, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui demandent à Jésus « Explique-nous cette parabole », eh bien Jésus donne des explications afin qu'ils puissent comprendre de plus en plus quel royaume il est venu annoncer. La dernière fois, je parlais de ce livre qui s'intitule « Les paraboles du royaume » du pasteur québécois Stéphane Réaume. Et j'ai bien aimé qu'il rappelle, pour mieux comprendre ces paraboles, quelles étaient les attentes de l'époque. Qu'est-ce que les gens attendaient à l'époque au moment où Jésus prononce son discours? Il écrit notamment à ce sujet que la proclamation de Jésus sur le royaume de Dieu s'est donc située à l'intérieur d'un contexte historique précis et à ranimer bien des espérances parmi la population. Oui, à l'époque de Jésus, les Juifs croyaient aux prophéties, qui croyaient aux prophéties de l'Ancien Testament, attendaient le royaume de Dieu. Ils attendaient que le royaume de David soit restauré par le Messie que Dieu enverrait. Ils attendaient que ce Messie apporte dans cette nouvelle ère la justice et la paix. Ils attendaient bien sûr aussi la fin de la domination romaine. Voilà les attentes qu'il y avait à cette époque. Et Jésus vient et leur parle de ce royaume qui n'a rien à voir avec ce qu'ils attendent. Ce royaume que Jésus annonce n'a pas le faste, n'a pas la victoire politique que les autres attendaient. Non, au contraire, quand Jésus parle du royaume, il parle d'une graine de moutarde qui a l'air tout à fait insignifiante, mais qui pourtant progressivement grandit, pousse, jusqu'à donner un arbre majestueux aux branches étendues. Voilà comment Jésus présente le royaume de Dieu. Quelque chose qui paraît totalement insignifiant, avec une croissance totalement discrète, mais qui pourtant un jour sera totalement apparent, visible pour tous. Ce royaume sera visible par tous. Mais ce n'est pas encore le moment. Et ce matin, nous abordons ces deux nouvelles comparaisons qui renvoient aux questions que j'ai posées au début. Quel prix accordons-nous au royaume de Dieu ? Et à la fin du message, eh bien, nous aurons une réponse à apporter à ce que Dieu nous dit ce matin. Et par ces paraboles, eh bien, Jésus nous enseigne en fait combien le royaume de Dieu est plus précieux que tout l'or du monde. Plus précieux que tout ce qui a du prix pour nous. Et c'est par là que je veux commencer, par ce trésor qui est le plus grand. Oui, le royaume de Dieu est le plus grand des trésors. Si vous aimez bien les chasses au trésor, si vous cherchez un trésor, vous ne trouverez pas plus grand que le royaume de Dieu. Jésus n'a même pas besoin d'expliquer ces paraboles que nous évoquons ce matin. Il n'a pas besoin de donner une explication, parce que quand nous les lisons, nous comprenons ce que Jésus est en train d'évoquer. Il est en train de nous dire que le royaume des cieux est semblable à ce trésor caché dans un champ, et qu'un homme, lorsqu'il tombe dessus, sur ce trésor, n'a qu'une chose en tête, tout vendre pour pouvoir acquérir ce champ où se trouve ce trésor. Il me semble que l'histoire est assez explicite, il n'y a pas besoin de chercher un sens caché à ce que Jésus nous raconte ici. Et l'autre parabole est assez similaire. Un marchand qui cherche des perles, et pour celle qui lui semble apparaître à ses yeux la plus précieuse, celle qui a le plus de valeur, eh bien, il est prêt aussi à vendre tout pour pouvoir posséder cette unique perle. Pour certains, un tel calcul paraît complètement fou. Tout vendre pour une seule chose. Existe-t-il en ce monde une seule chose pour laquelle vous seriez prêt à tout vendre ? Tout ce que vous avez. Est-ce qu'il existe dans ce monde une seule chose pour laquelle vous êtes prêt à tout vendre ? Et je le dis d'emblée, ce n'est pas ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Jésus ne dit pas à celles et ceux qui veulent le suivre de tout vendre, de vendre tous leurs biens. Autrement, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose. Non, ce n'est pas ce que Jésus demande à ses disciples. Il a pu effectivement le dire à un jeune homme riche qu'il a rencontré et qui finalement a renoncé à le suivre parce que c'était trop dur. Mais Jésus ne le demande pas à tous ses disciples. Et je reviendrai plus tard sur ce qu'il faut comprendre par l'attitude de l'homme qui a trouvé un trésor et qui est prêt à tout vendre, ou par l'attitude du marchand de perles qui est prêt à tout vendre pour acheter sa perle. Pour l'instant, accordons-nous un moment pour entendre ce que Jésus dit du royaume de Dieu. Jésus raconte ces paraboles pour nous montrer qu'il n'y a en ce monde rien de plus précieux que le royaume dont il parle. Et à ce stade, dans ce qu'on est en train de dire, évaluons ce que Jésus dit. Soit il a raison, soit il est en train de mentir. Et la deuxième option est inconcevable pour nous, parce que Jésus a forcément raison. Jésus dit forcément la vérité ici, quand il nous dit qu'il n'y a rien de plus précieux que son royaume. Et la question donc à se poser, si c'est le cas, c'est pourquoi n'est-ce pas vrai pour moi ? Pourquoi m'arrive-t-il de ne pas trouver le royaume de Dieu tel que Jésus le décrit ici ? Pourquoi le royaume de Dieu n'est-il pas pour moi comme un trésor caché pour lequel je m'empresserai de tout vendre pour l'avoir ? Si Jésus dit les vérités, alors pourquoi n'est-ce pas vrai pour moi ? Et je vis dans ce monde comme vous. Et comme moi, eh bien, vous trouvez sans doute beaucoup de choses dans ce monde plus attrayantes que le trésor que Jésus présente. Ce qui appartient à ce monde, la gloire, le succès, les richesses, le sexe, semble combler tout ce à quoi nous aspirons. Et à côté de cela, parler du royaume de Dieu a-t-il encore de l'attrait ? De nos jours. Regardons de nouveau. D'après le seul verset 44, qu'est-ce qui ressemble à un trésor caché dans un champ, au point qu'un homme est prêt à tout vendre pour avoir ce champ ? Est-ce la famille? Est-ce une vie réussie? Est-ce une grande maison? Est-ce l'amitié? Ou est-ce l'amour? Rien de toutes ces choses. Tout ce que je viens d'énumérer peut être un don de Dieu, une bénédiction, une grâce de sa part. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne ce matin. Ce qui ressemble à un trésor caché dans un champ pour lequel un homme serait prêt à vendre tout ce qu'il a, c'est le royaume des cieux. Rien d'autre dans ce monde n'a plus de valeur que ce royaume. Et ce matin, ces paraboles de Jésus nous questionnent sur notre manière de considérer, d'estimer, d'évaluer le royaume de Dieu. Est-ce pour nous aussi précieux que Jésus nous le présente? Le trésor le plus grand, qui vaut plus que tout ce qu'un homme peut posséder ici-bas. Et paradoxalement, si le royaume des cieux est le plus grand trésor, il peut être étonnant qu'il soit aujourd'hui si peu convoité, si peu désiré, si peu recherché. Paradoxalement, si c'est le plus grand trésor, eh bien nous constatons qu'il y a si peu qui le recherchent. Et d'un autre côté, seuls les disciples de Jésus qui veulent véritablement le suivre désirent ce royaume, désirent que Dieu règne sur eux, désirent que Jésus soit leur roi. Oui, si le royaume est si précieux, c'est bien sûr à cause de celui qui règne. Et il est utile de rappeler que dans l'absolu, Dieu règne. Dieu règne sur toute sa création. Dieu règne sur toutes ses créatures, qu'elles le veuillent ou non. Plusieurs versets, notamment dans les psaumes, nous le rappellent. Psaume 47, versets 7 à 9. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez, chantez en l'honneur de notre roi. Chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Psaume 103, verset 19, nous dit également « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Donc, dans l'absolu, Dieu règne, c'est vrai. Et dans un autre sens, ce règne n'est pas reconnu par tous. C'est Jésus le présente comme un règne à venir. C'est pour cela que nous prions que ton règne vienne. Un règne qui est encore à venir, un règne qui sera signe de salut pour tous ceux qui auront reconnu Jésus comme roi. Mais en même temps, ce règne, ce royaume, a commencé à faire irruption dans l'histoire, quand Jésus est venu dans notre monde. J'ai montré ce schéma la dernière fois et je le réexplique très brièvement. Vous avez deux cercles ici. Le monde présent, qui est celui qui continue, et le monde à venir, celui qui est de l'ordre du royaume de Dieu. Et ce monde à venir a déjà commencé à faire irruption dans notre monde lorsque Jésus est venu parmi nous. C'est ça qu'il est venu annoncer. C'est ce royaume-là. Et vous voyez qu'il faut encore attendre sa seconde venue, pour que prenne fin le monde présent et pour que cela laisse place au monde à venir totalement. Et quand Jésus parle du royaume, il en parle comme une bonne nouvelle. Et quand il en parle, il dit ceci, « Changez d'attitude ou repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et si le royaume des cieux est aussi proche, c'est parce que Jésus, le roi de ce royaume, est là. Il est au milieu de ses contemporains. Il est proche. Il est là. Mais il faut changer d'attitude. Il faut se repentir. Que Dieu règne sur nous, qu'il soit désormais le roi sur notre vie, est-ce une bonne nouvelle? Est-ce ainsi que nous l'avions accueilli au début de notre vie chrétienne? Voulons-nous ou non du règne de Dieu? Souhaitons-nous que son règne s'étende sur d'autres vies? Autrement dit, que d'autres, de plus en plus, connaissent Jésus et acceptent sa seigneurie. Vous savez, pour moi, cela reste totalement étonnant que 2000 ans après la proclamation de ce message, des hommes et des femmes qui vivent en République française continuent de placer leur confiance en Jésus et de le reconnaître comme le roi des rois. Des gens qui vivent en République et qui reconnaissent Jésus comme le roi des rois. Je trouve cela totalement étonnant. D'autant plus que ce royaume est différent, totalement différent des royaumes et des démocraties de notre temps. Et pour l'expliquer, seule la puissance de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit peut expliquer que des gens continuent de croire en Jésus à notre époque, en répondant à un message qui est proclamé depuis 2000 ans. C'est toujours le même. Ils répondent à un message qui date de 2000 ans. Et je ne vois pas d'autre explication que l'œuvre de Dieu derrière tout cela. Mais cela reste étonnant pour moi, qu'à notre époque encore, des gens puissent reconnaître Jésus comme roi. Si le premier aspect souligné par les paraboles est la valeur insurpassable du royaume des cieux, le second aspect concerne l'attitude, la réaction directement liée justement à la valeur du royaume. Si le royaume est si précieux, qu'est-ce que nous ne ferions pas pour ce royaume ? Le trésor le plus grand implique l'engagement le plus grand. Et c'est à cela que je veux en venir, l'engagement le plus grand. Vous serez sans doute d'accord avec moi que plus la cause est noble et plus il vaut la peine de travailler dur pour la défendre, peut-être même au péril de sa vie. Plus la cause est noble et plus il vaut la peine de travailler dur pour la défendre. Voici quelques témoignages de personnes qui sont engagées pour diverses causes. J'en citerai simplement deux. Une personne qui dit « Les médias nous bombardent de mauvaises nouvelles qui heurtent nos consciences. Elles nous indignent et nous attristent. Je voulais faire en sorte de remplacer les mauvaises nouvelles par des bonnes en œuvrant pour un monde plus juste. » Et la deuxième personne témoigne ainsi « J'observe les tensions géopolitiques mondiales en me demandant ce que je peux faire avec mon jeune âge. La réserve, militaire il faut entendre, la réserve peut me permettre de servir la nation, de protéger notre pays. » Le dernier témoignage est celui d'un jeune homme de 17 ans. Il est prêt à s'engager pour son pays, pour protéger son pays. L'engagement, le dévouement, la loyauté doivent être à la hauteur de la cause défendue. Et nous, pour quelle cause plus grande est-ce que nous œuvrons ? À quel genre d'engagement Jésus appelle-t-il ses disciples ? Eh bien, nous avons un élément de réponse. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, Jésus répond à Pilate et il lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Ce que Jésus est en train de dire à Pilate, c'est que, oui, effectivement, ce qu'il attend de ses disciples, c'est qu'ils soient prêts à tout pour lui. Mais comme son royaume n'est pas d'ici, eh bien, effectivement, ils n'ont pas agi de cette manière-là. Jésus attend de ses disciples un engagement total, qu'ils soient prêts à tout pour lui. Revenons à nos paraboles. Nous voyons dans ces deux histoires que l'homme qui a fait une belle découverte n'hésite pas une seconde. Il vend tout, absolument tout ce qu'il a, pour être en possession d'un bien supérieur. Et vous remarquez, dans la première de ces paraboles, qu'il est question de joie. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble à un trésor qui provoque de la joie chez celui qui l'a trouvé. Et c'est avec joie qu'il vend tout ce qu'il a. Et nous ne savons pas ce qu'il possède, mais il le vend sans regret. Et cette réaction, dans ces circonstances, nous pouvons la comprendre. Certains commentateurs ont comparé ce trésor trouvé au fait de gagner au loto, à l'euro-million. Celui qui gagne est tout en joie. C'est normal. Et je n'ai même pas besoin de vous décrire cette joie. Je pense que vous l'imaginez assez facilement. Eh bien, sans doute qu'il s'agit d'une telle joie ici. Et Jésus ne mentionne même pas ce détail dans la deuxième parabole, parce qu'en fait, c'est implicite. Le marchand qui a trouvé la plus belle des perles est forcément aussi dans la joie. Et est-ce que cela rejoint notre expérience ? Est-ce qu'en découvrant le message de l'Évangile, en comprenant comment entrer dans le royaume de Dieu, comment être sauvé, vous avez éprouvé de la joie ? Même si les expériences peuvent être diverses, je serais vraiment très étonné d'entendre, si c'était le cas, que vous n'avez jamais éprouvé de joie en rapport avec la bonne nouvelle. Celui ou celle qui se rend compte que par la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, le royaume lui est accessible, ne peut qu'éprouver de la joie. Je le redis, si vous n'avez jamais éprouvé une quelconque joie en lien avec l'Évangile, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'en était pas une pour vous. C'est une chose d'avoir éprouvé de la joie au moment où nous avons compris ce que signifiait l'Évangile. Mais c'en est une autre de continuer à vivre dans cette joie, la joie du salut. La joie de connaître le Seigneur, d'être en communion avec lui. La joie d'être à lui. La joie de vivre sous son règne. Si cela ne nous procure aucune joie, j'ai bien peur que vous et moi ne parlions pas du même évangile. Comment celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous ne serait pas source de joie pour nous. Comment son royaume, son règne sur nous ne pourrait-il pas nous réjouir ? Mais je continue. Dans ces deux paraboles, l'attitude de l'homme interpelle. Pour le trésor ou la perle, l'homme se défait volontiers de tout ce qu'il a. Il préfère ne plus posséder ce qui avait de la valeur pour lui afin d'obtenir un trésor encore plus grand. Et je le demandais un peu plus tôt, est-ce qu'il existe en ce monde une chose pour laquelle vous seriez prêt à tout vendre ? Et si c'est le cas, peut-être que vous avez une réponse à cette question, si c'est le cas, c'est que cette chose a énormément de valeur à vos yeux. Mais pour Jésus, cette chose, si je peux m'exprimer ainsi, cette chose ne peut être que le royaume de Dieu. Rien d'autre ne requiert autant de notre personne, de notre dévouement. Aucune autre cause, même la plus noble qui soit, ne mérite autant de notre personne que le royaume de Dieu. Dans des termes assez similaires, l'apôtre Paul évoque ce qu'il est prêt à perdre pour Christ, c'est-à-dire tous ces privilèges qu'il avait en tant que juif et pharisien avant de connaître Christ. Et voici comment il dit les choses, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Nous connaissons ces versets. Nous les avons déjà lus, nous les avons peut-être déjà médités. Et peut-être que nous pouvons aussi nous dire, mais en fait, c'est l'apôtre Paul, donc c'est normal qu'il s'exprime comme ça. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas nous exprimer de cette manière-là ? Tout ce qui pouvait constituer sa fierté en tant qu'homme, Paul le voit comme des ordures. Et le terme est fort. Effectivement, il ne pouvait pas, à ce stade, en connaissant Christ, être fier de son passé de pharisien. Il considère tout cela comme des ordures. À côté de Christ, tout ce qui est attirant en ce monde, tout ce qui flatte notre ego et notre orgueil perd de son éclat. À côté de Christ. Quand Jésus demande à ses disciples de le suivre, il demande l'engagement le plus total, le cœur le plus loyal et le plus entier. Pas de concurrence avec ce qui est attirant dans ce monde. Il demande, Jésus demande, de le placer au-dessus de tout ce qui nous est cher, y compris notre famille. De même ici, avec les paraboles de notre texte, il enseigne que pour le royaume, aucun sacrifice n'est trop grand. Le disciple doit être prêt à tout pour le royaume de Dieu qui s'est approché de nous en la personne de Jésus. Et si Jésus compte autant pour nous, si son royaume fait notre joie, qu'est-ce que cela implique aujourd'hui pour nous? Il me semble, pour reprendre l'expression de Stéphane Réaum, que cela réoriente notre vie. Si le royaume de Dieu est si important pour nous, cela réoriente notre vie, la manière dont nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'il faut faire demi-tour et il faut aller dans l'autre sens. Et je constate parmi certains chrétiens que je connais que le royaume de Dieu est loin d'être une préoccupation majeure. Les affaires terrestres occupent bien plus de place. Trouver un bon emploi, élever des enfants en bonne santé, acquérir une maison, obtenir un certain confort. Quelque chose qui ressemble en fait au rêve américain ou au rêve français. Pourtant, bien sûr, ces chrétiens vont à l'église. Bien sûr, ces chrétiens ont mis leur foi en Christ. Mais leur quotidien n'est pas orienté par le royaume de Dieu. D'ailleurs, vous remarqueriez qu'il parle de tout sauf du royaume de Dieu. À l'inverse, quand j'étais aux États-Unis il y a quelques mois, j'ai été marqué par la joie et l'engagement de nos frères et sœurs de l'église d'Appleton. Certains, c'est vrai, ont fait de leur ministère, de leur service, un ministère à temps plein ou à temps partiel. Il est vrai aussi qu'ils ont d'autres moyens et que ces frères et sœurs qui sont engagés auprès des enfants, qui sont engagés auprès des personnes âgées, qui sont engagés dans la louange, qui sont engagés dans le soin pastoral, peuvent vivre de leur ministère. Oui, ils ont d'autres moyens. Et par rapport à l'œuvre missionnaire, eh bien, ils sont aussi très généreux. Et si j'ai appris une chose en observant cette Église, c'est que pour le royaume de Dieu, il ne faut pas avoir peur de dépenser. Il ne faut pas avoir peur d'investir, de financer les projets, de soutenir financièrement les missionnaires, de soutenir financièrement celles et ceux qui vont se former en études de théologie. Le royaume de Dieu réoriente notre vie jusqu'à notre manière de dépenser chaque centime que nous possédons. Jésus l'a enseigné un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, et nous connaissons aussi ce passage au chapitre 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et je fais juste une parenthèse. En cette période estivale, les gens ont principalement peur d'une chose, de se faire cambrioler durant leur absence. Je ferme la parenthèse. Jésus parle, dans le texte que nous venons de lire, de trésor. Où est ton trésor aujourd'hui? Dans les trésors qui sont sur la terre, et il y en a beaucoup. Et ils brillent et ils sont très attrayants. Ou dans ce qui concerne le ciel, le royaume de Dieu, le règne et la gloire de Dieu. Où est ton trésor? Mes amis, à quoi ressemble notre engagement actuel pour le royaume de Dieu? Sommes-nous comparables à cet homme qui, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a pour avoir ce trésor ? Sommes-nous prêts aussi à renoncer à bien des choses pour pouvoir donner de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour le royaume de Dieu ? Sommes-nous prêts à renoncer pour pouvoir avoir plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent pour le royaume de Dieu ? Pour que plus de personnes connaissent le Seigneur aux quatre coins du monde. Pour que l'Évangile progresse dans notre pays. Pour que l'Église soit en bonne santé. Pour que la relève pastorale soit assurée. Si je suis là aujourd'hui, devant vous en tant que pasteur, c'est parce que durant 3 ans, mon ancienne Église a financé intégralement mes études de théologie. Et bien plus encore. Ils ont investi pour moi, même si je devais servir ailleurs. Mais ils ont investi pour le royaume de Dieu avant tout. Je rêverais que dans notre église, des frères et sœurs puissent vivre de leur ministère. Que s'ils veulent servir à la louange et le faire à temps plein, ils puissent avoir les moyens de le faire, sans s'inquiéter du lendemain. Je rêverais qu'il en soit ainsi. Mais est-ce que nous pensons de cette manière-là ? Est-ce que nous pensons aussi grand ? Si le Seigneur a manifesté envers vous sa grâce, s'il est réellement tout pour vous, comme parfois nous le chantons, si son royaume est ce que vous recherchez d'abord, qu'êtes-vous prêt à faire pour lui ? Et pour chacun d'entre nous, l'engagement total signifiera autre chose. Pour certains, ce sera de dédier plus de temps à servir dans l'Église. Pour d'autres, ce sera de donner plus d'argent pour soutenir tous les projets en lien avec le royaume de Dieu. Pour d'autres encore, ce sera de consacrer du temps à être témoin de Jésus-Christ dans la sphère professionnelle, familial, résidentiel, là où vous vous trouvez. Pour le royaume de Dieu, sommes-nous prêts à tout ? Sommes-nous disponibles ? Sommes-nous disposés dans notre cœur ? Et pour terminer, je voudrais vous laisser quelques minutes pour pouvoir répondre à ces deux questions. La première, à quoi dois-je renoncer pour investir plus de temps et ou plus d'argent pour le royaume de Dieu ? Et la deuxième question, comment puis-je, dans ma situation actuelle, m'engager totalement pour le royaume ? Je vous laisse quelques instants pour déjà y réfléchir avant que je puisse prier.